Oui, parce que cette histoire est, en fait, nous conduit au cœur du dispositif politique, idéologique, répressif de notre temps. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé avec Éric Tegner, il faut décentrer un peu l'histoire d'Éric Tegner pour voir quel dispositif s'est activé de manière particulièrement vive sur le mode d'une forme de volonté de censure collective. Alors, le point de départ, il y a une dimension politique. Il y a un lobby immigrationniste en France. Il y a un lobby immigrationniste en France, tout comme il y a un lobby immigrationniste au Canada, au Royaume-Uni, dans la plupart des pays occidentaux. Et dans ce lobby immigrationniste, évidemment, les avocats, souvent militants immigrationnistes, jouent un rôle central. C'est-à-dire que c'est tout un petit lobby qui prospère sur les dérèglements ou sur les failles de la politique migratoire. Et sur le dérèglement, on pourrait même dire, du droit à la migration. Donc c'est un lobby dont la prospérité dépend de sa capacité à instrumentaliser la crise migratoire et la pousser toujours davantage. La crise migratoire se résorberait-elle que ce lobby serait dès lors asséché financièrement? Donc, ce lobby existe et c'est un des lieux de pouvoir qui contribue à la crise migratoire en France aujourd'hui. Évidemment, les lobbies n'aiment pas qu'on les nomme. Les lobbies préfèrent se dissimuler derrière les apparences de l'administration ou du droit. Mais les lobbies peuvent et doivent être nommés de temps en temps. Alors, ce que propose Tegner dans le fameux numéro de frontière, ça consiste à nommer ce lobby et les figures qui le composent dans leur dimension publique. Dans leur dimension publique, on s'entend bien. Donc, on peut ne pas aimer, et là, je prends la peine de le dire, parce que j'ai vu ce qui se disait sur les réseaux ces jours-ci, on peut ne pas aimer Frontières, on peut ne pas aimer Éric Tegner, qu'importe, on peut l'aimer aussi, soit dit en passant. On peut avoir un rapport trouble à lui, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas présenté ici la liste des adresses personnelles des uns et des autres. Il a critiqué les avocats du lobby immigrationniste en tant que figure publique, à partir d'informations déjà disponibles, si je peux me permettre d'ajouter. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? On nous dit « Ah, il attaque l'État de droit ». Il n'attaque pas l'État de droit dans les circonstances. Il dit « Il y a un pouvoir organisé, un pouvoir, on pourrait dire, qui n'est pas structuré brutalement, mais c'est un pouvoir qui existe au point de contact entre le droit et l'État et qui joue un grand rôle dans l'immigration en France ». Où est le problème dans le fait de le nommer? Alors, j'ajoute un élément dans tout cela. Des enquêtes sur des différents lobbies à gauche ou à droite, et surtout à droite, ils existent souvent dans la presse de gauche. Hein. Que je sache, et on dit souvent, on fait le profil personnel des gens, ils travaillent à cet endroit, ils sont liés à cette institution. Que je sache, il n'y a pas de scandale quand on décide de mener une enquête qui vise des gens qui sont marqués à droite. Donc là, on a une forme d'asymétrie de la justice, où la justice se montre très sévère envers un magazine, Frontières, envers un homme, Éric Tegner. Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé un pouvoir qu'il n'était pas permis de nommer. Deuxième élément de cette séquence, il y a la question du juge. Alors, Éric Tegner a été jugé par un homme, un juge, et là, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours? On a vu, en fait, depuis hier ou avant-hier, je crois, depuis jeudi, on a vu que ce juge a un profil idéologique très particulier. Un profil idéologique très marqué dans la logique diversitaire, dans une logique de presque d'ethnicisation de la société. C'est un juge et plutôt qu'un autre qui a rendu cette décision. Est-il possible de le critiquer? Est-il possible de dire « cette décision de justice n'est pas indépendante de l'homme qui a pris cette décision de justice ». Évidemment, il ne s'agit jamais de l'appel au harcèlement. J'ai vu qu'il y avait des commentaires racistes. Ils sont évidemment condamnables. Tout ça, ça va de soi. Mais je pense que tout le monde conviendra qu'on peut critiquer le pouvoir dans les circonstances, une décision de justice, à moins que ce soit de la justice divine. Si c'est de la justice divine, il faut nous avertir. Donc, on peut critiquer une décision de justice, donc l'homme ou la femme à l'origine de cette décision, sans que ça ne soit assimilé à un travail de une campagne haineuse contre le juge en question. Alors, Gérald Darmanin nous dit très justement une campagne haineuse ou raciste est absolument condamnable. Il a raison, mais je suis persuadé que M. Darmanin distingue entre une campagne haineuse et raciste et la critique d'une décision d'un juge qui nous rappelle, et c'est important ici, que dans nos sociétés, le droit n'est pas impersonnel. C'est plus vrai ça. On a en France des juges militants, des juges idéologiquement orientés, des juges qui utilisent le pouvoir qui est le leur pour imposer une conception de la société. Donc derrière, on ne critique pas une décision de justice, il y a un pouvoir qui est tellement sacré qu'il n'est pas permis, un, de le nommer et deux, de le critiquer. Vous noterez que ce n'est pas la première fois. Marine Le Pen, rappelez-vous au moment de la décision, on verra dans quelques semaines la suite, on nous avait dit on ne doit pas s'intéresser au profil de la juge qui a décidé de l'exécuter juridiquement. Sauf qu'on a fouillé un peu, puis on a constaté qu'elle avait, elle aussi, des orientations idéologiques particulières. Donc, vu le pouvoir de la justice, est-il le seul pouvoir qu'il ne soit pas permis de critiquer aujourd'hui? Autre exemple, parce que quelquefois, ça se concrétise. Jean-Yves Le Gallou, qu'on a déjà reçu ici, en 2022, critique une juge administrative qui avait suspendu l'OQTF de l'imam Ikhwissen. On s'en souvient peut-être. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de le poursuivre, en fait, devant les tribunaux. Et là, donc, ça a duré plusieurs années. Donc, parce que lui, il s'intéressait, Le Gallou, il dit, est-ce que c'est du militantisme idéologique, une surinterprétation des textes? Est-ce qu'elle a peur des islamistes? Il se posait ces questions-là. Pendant des années, devant les tribunaux, mais finalement, il a gagné. Il a gagné pourquoi? Parce qu'on avait reconnu, dans ce cas-là, le droit de critiquer une décision de justice constatant que cette décision relevait du périmètre du débat public. Il avait été relaxé. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances actuelles, il y a une structure de pouvoir qui n'aime pas se faire nommer, qui n'aime pas se faire critiquer et qui veut sanctionner ceux qui la nomment et ceux qui la critiquent et ceux qui enquêtent sur elle.
Une autre discussion de justice a fait parler, décision de justice, celle frappant la militante identitaire Thaïs Descuffon.
Oui, alors Thaïs Descuffon, voilà, c'est un autre cas où on peut commencer en disant on peut apprécier ou non Thaïs Descuffon. Il ne s'agit pas de s'enthousiasmer pour elle ou de la dénigrer. Elle a été condamnée pour des propos, alors que je ne reprendrai pas ici parce qu'ils ont été condamnés, mais je les résumerai, je résumerai leur état d'esprit, faisant un lien entre l'insécurité en France, ressentie par certaines femmes, par les femmes en général, et certaines communautés qu'elle a pris la peine d'identifier. Alors, la question est la suivante. Soit c'est vrai, de mon point de vue, soit ce qu'elle dit est vrai, et là, c'est une matière enquête sociologique, et il faut trouver la politique appropriée, soit ce qu'elle dit est faux. Et si c'est faux, c'est tout simplement faux. Mais elle a été condamnée, pourquoi? Parce qu'on l'accuse d'avoir tenu un propos péremptoire généralisant et essentialisant visant un groupe, selon l'origine ou l'ethnie. Donc globalement, on l'accuse d'avoir tenu, je traduis en termes concrets, des propos haineux ou stigmatisants à l'endroit de certaines communautés. Mais là, c'est un problème, cela dit. En plus, on l'a accusée, oui, dans la condamnation, on lui a dit qu'elle n'a pas eu de remise en question de sa part. Donc, elle n'a pas été pénitente. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas fait la génuflexion devant la justice pour dire « j'ai eu tort de dire ce que j'ai dit ». On peut, encore une fois, être en désaccord avec ce qu'elle a dit. Mais depuis quand une observation sur la vie en société doit se retrouver devant les tribunaux sous le signe du propos haineux ou pas haineux? Je précise qu'elle n'est pas la seule à connaître. Elle aurait pu faire de la prison. Hein. Finalement, elle ne fait pas de prison, mais elle aurait pu faire de la prison pour ce qu'elle a dit. Et là, on me dira, oui, mais c'est Thaïs Descuffon, c'est une militante identitaire, vous n'allez quand même pas vous porter à sa défense. Mais là, je vais vous parler de Georges Bensoussan. Rappelez-vous, Georges Bensoussan qui était devant les tribunaux pour avoir proposé une réflexion entre l'islamisme, l'antisémitisme et une partie de la culture du Maghreb. Soit dit en passant, il s'en est tiré à la fin. Mais il y a eu une bonne partie, plusieurs années gâchées devant les tribunaux. Renaud Camus, on peut ne pas apprécier du tout Renaud Camus, mais pourquoi son œuvre se retrouve devant les tribunaux? Dans la vie publique, nous vivons tous désormais dans la crainte de la condamnation pour propos dits haineux et tout ça. Et là, on me dira, oui, mais vous défendez seulement les gens dits de droite. On peut parler aussi de Dieudonné, si vous souhaitez. Je n'ai pas une affection immodérée pour Dieudonné. Je ne suis pas certain que son travail, son œuvre, qu'on l'apprécie ou non, doive se retrouver devant les tribunaux. De ce point de vue, il ne devrait pas y avoir, je crois, c'est le libéral en moi qui parle, une police de la pensée qui est aussi une forme de police politique. Je note, soit dit en passant, que plusieurs s'interdisent de défendre les personnes que je viens de vous nommer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais si on ne défend la liberté d'expression que les gens avec qui on est d'accord, à la fin, lorsque notre liberté d'expression sera confisquée, personne ne viendra nous défendre.
Revenons à Eric Tegner. Il a été condamné sur la base de la loi Samuel Paty. Que faut-il comprendre, Mathieu?
Alors ça, c'est particulier. Donc, c'est une loi qui était adoptée à la suite, évidemment, du massacre de Samuel Paty, pour ceux qui se participent à une forme de doxing, dit-on, une forme de harcèlement public conduisant à terme à des comportements plus que regrettables, c'est le moins qu'on peut dire dans le cas de Samuel Paty, c'est un meurtre. Qu'est-ce qu'on voit avec ces lois-là? Donc la loi Paty, théoriquement, c'est faite pour lutter contre les islamistes. On s'entend, c'était pour lutter contre les islamistes. Mais à terme, elle est retournée contre qui? Contre un journaliste à qui on colle l'étiquette identitaire. Donc la loi, d'abord contre les islamistes, retournée pour persécuter ceux qui s'opposent au lobby immigrationniste. De la même manière, la loi sur l'entrisme votée au Sénat, autour de Bruno Retailleau, sur l'entrisme islamiste, reprise, portée aussi à sa manière par Laurent Nunez, À l'origine, ça devait dénoncer l'entrisme islamiste. À la fin, qu'est-ce que ça va dénoncer? L'entrisme, plus généralement, et la remise en question de la République ou de l'idéologie républicaine. Mais comprenons-nous, dans les circonstances, à terme, ce sont ceux qu'on étiquette à l'extrême droite, entre guillemets, les identitaires, qui seront, encore une fois, frappés d'interdits. Et la prochaine loi sur les propos haineux d'Aurore Berger, dont on a déjà parlé ici, à l'origine, c'était censé lutter contre l'antisémitisme. Afin, ça va servir, cette loi, à bannir juridiquement l'opposition qui s'oppose à l'immigration massive en condamnant pour inéligibilité ceux qui seraient accusés de propos haineux. Or, quand on voit que la critique de l'immigration massive est assimilée aux propos haineux, on voit très bien ce qui va se passer avec cela. Donc, il y a tout un dispositif juridique de répression de la parole dissidente qui s'est mis en place. Il ne s'agit pas d'apprécier tel ou tel propos de telle ou telle personne, mais de constater que ce dispositif se déploie, se radicalise et frappe de plus en plus souvent. Et la plupart se taisent de peur d'être la prochaine cible.
De précision, c'est l'agence France Presse, le 18 juin dernier, à 16h, 46, si mes souvenirs sont bons.
Qui a rendu l'identité publique du juge.
Exactement, l'identité publique du juge. Et deuxième chose, les avocats qui étaient visés dans cette enquête de frontières sont des avocats, pour certains, qui sont très connus, parfois médiatisés et parfois même candidats aux législatives avec la France insoumise. Mais c'est aussi important de rappeler ce contexte-là. C'est un sujet absolument passionnant, Ophélie Roch, parce que ça dit beaucoup de notre temps.
Oui, ça dit beaucoup de notre temps. Et je ne vais pas reprendre tout ce que Mathieu a dit, mais je vais essayer d'apporter un éclairage un peu différent. C'est vrai que le tribunal correctionnel, bon, il a condamné Éric Tegner à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende. Et ce n'est pas pour la diffamation, c'est pour une pratique supposée du doxing. Alors le doxing, c'est quoi? Parce que c'est finalement quelque chose d'assez récent. Ça consiste à partager sur Internet des informations qui pourraient exposer une personne à des risques réels. En cause, en effet, c'est ce fameux numéro de 2025 qui désignait nommément des avocats du droit des étrangers comme étant coupable de l'invasion migratoire. Alors, il n'y a rien de trop affolant jusque-là, mais si la justice se fâche, c'est que certains d'entre eux furent menacés suite à la publication de l'article sur les réseaux sociaux. Et toute l'affaire repose, en fait, sur une question qui est quasiment insoluble. Peut-on tenir responsable un journal, non pas du contenu qu'il publie, mais de l'émoi qu'il suscite? Et alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt à la mode de taper sur les tribunaux, tant il est vrai, certains de leurs jugements semblent un petit peu lunaires. Mais ici, a priori, le droit d'enquêter n'est pas remis en cause. Se pencher sur le coût de l'immigration, sur les dérives de l'aide juridictionnelle ou sur le fonctionnement souvent très intéressé, il faut bien le dire, de certains cabinets d'avocats reste permis. Mais, et en fait, tout est contenu dans le mais d'une certaine manière, le tribunal a décidé de sanctionner la méthode employée, c'est-à-dire à savoir une liste qu'il jugeait accusatoire et qui désignerait un tel ou un tel comme étant coupable d'une immigration rendue folle. Alors en fait, c'est là où on peut se poser la véritable question. Est-ce que donner le nom d'une ville, le nom d'un avocat, qui en plus souvent ont un peu pignon sur rue sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait forcément de lui une cible? Alors la vérité, c'est que la notion de doxing étant quand même assez récente, on baigne un peu dans le flou en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment l'aborder et d'une affaire à l'autre, il y a des conclusions qui sont complètement différentes. Il n'en reste pas moins que pour la première fois en France, un déni pénal qui était finalement conçu uniquement pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour éviter tout ce qui était cyberharcèlement, s'applique à un journal et à un journal, en fait, un journal papier. Alors, Tegner fera probablement appel de la décision et c'est tant mieux. Ça permettra peut-être de mieux cerner le fond du problème parce que jusqu'à présent, le terme de cyberharcèlement reste vague et que selon le juge, la danse varie. Et à l'heure où chaque journal dispose de comptes en ligne, hein, je pense que tous les journaux, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, sont tous sur X ou sur Twitter, etc., etc., ou sur Instagram, on risque à terme de fragiliser tous les médias, parce qu'on va dire, mais vous êtes responsable finalement d'un éventuel passage à l'acte, parce qu'il a suffi que vous disiez une information qui finalement n'a pas plu à quelqu'un et que cette personne décide de passer à l'acte pour que vous soyez tenu responsable. Donc finalement, la République croit nécessaire d'ériger de nouveaux garde-fous liberticides afin de protéger certains types de personnes contre des attaques finalement qui pourraient venir de quelqu'un de déséquilibré. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que finalement on peut protéger le droit de la presse en décidant qu'il y a des fous furieux dans la société? Donc le mieux c'est encore de ne rien dire pour ne pas les provoquer.
Autre sujet, et nous en parlerons en longueur de l'affaire Éric Tegner dans l'heure des pros avec les déclarations d'Éric Tegner que vous n'avez peut-être pas entendu ce matin.